Vendredi 14 octobre, la comédie nous a ouvert ses portes. Sébastien Evenot, Bénédicte Cerutti et Elsa Agnès nous ont parlé de la nouvelle programmation saison 2022-2023 de la comédie et plus spécifiquement de deux spectacles, Le Firmament et Le Caméléon. Et pour cette émission spéciale, Sébastien Evenot, Elsa Agnès et Bénédicte Cerutti ont bien voulu nous faire la lecture.
Je vous salue, Madame Luc.
Bonjour, Monsieur Combes. Pas maintenant, Billy.
Tu n'es pas venu jeudi dernier. Chut. Je t'ai attendu une heure
et quart. Je t'ai dit, j'en ai fini avec ça.
Je n'arrête pas de penser à tes parties intimes. Où est le mal ? Nous sommes tous les deux veufs.
Je suis veuve, Billy. Ta femme est tout à fait vivante.
Oui, mais elle est partie à Lovestoft.
Qu'est-ce que tu veux ? Billy !
Bon, d'accord. J'arrive les assises. Le juge demande un jury de mère de famille.
Il me veut moi ?
Oui.
Il ne peut pas prendre quelqu'un d'autre ?
On m'envoie te chercher.
Personnellement ?
Du fait de ton expérience comme sage-femme.
Tu peux lui dire que c'est mon jour de grande lessive ?
La justice ne va pas s'arrêter pour ton linge.
Mais ça peut pas attendre un peu ?
C'est ton devoir de citoyenne.
C'est pas commode !
Ils ont arrêté et jugé les meurtriers de la petite Alice Wax.
Je ne savais pas qu'ils avaient trouvé le... qu'ils avaient trouvé un corps.
Il y a deux nuits, le vicaire a remarqué une quantité incroyable de corbeaux au-dessus de la vieille maison des Pearl. Ils ont trouvé la petite fille en morceaux, dans deux sacs, fourrés dans la cheminée.
Ça doit être la première fois qu'un enfant Wax participe de près ou de loin au ramenage d'une cheminée.
Lizzie ! Une enfant de 11 ans a été tuée et les Wax sont une bonne famille.
Bien sûr. Ils ont une maison pleine de raffinements à mettre entre eux et le reste du monde. Mais maintenant, le monde a quand même fini par y entrer.
Qu'est-ce qui te prend ? Il souffre ?
Je suis désolée pour Lady Wax. Mais il me semble que les gens par ici sont trop enclins à pleurer des petites filles et trop peu à pleurer des hommes adultes.
Écoute, tu sais que j'ai de la sympathie pour tes griefs, mais John Wax est un gentilhomme.
John Wax a clôturé le pâturage du mari de ma sœur et lui a donné à la place un bout de terre broussailleux du quart de sa taille. Et il a fait pendre David Swain pour braconnage.
Je ne t'ai jamais entendu parler si cruellement.
Bah, tu ne m'as jamais trouvé en plein ménage. Non, mais je suis triste pour Lady Wax. Le bonnet de la petite était toujours si joliment gaufré. Et s'il y a des meurtriers parmi nous, je suis contente qu'ils ne soient pas en liberté.
Ils ont été arrêtés cette nuit. Un homme et une femme. Il n'a fallu que 18 minutes pour les déclarer coupables tous les deux.
Pas des gens d'ici ?
Thomas McKay était un étranger descendu d'Écosse. Il a été pendu dès ce matin. T'aurais dû voir la foule.
J'aime pas regarder la vie quitter un corps. J'ai jamais aimé. Qui est le complice ? Un étranger aussi ?
Non. C'est Sally Poppy, de Medfield.
Je connais pas.
La femme de Fred Poppy, fille de Francis Cobb.
Sally ? La petite de Jeanette Cobb ?
Alors, Sébastien Evenot, artiste associé à la direction de la Comédie de Reims et acteur dans la pièce Le Firmament de Lucy Kirkwood, mis en scène par Chloé Dabert, la directrice de la Comédie de Reims.
Bénédicte Cerutti, donc je suis actrice dans Le Firmament, toujours mise en scène par Chloé Dabert, et je suis pour cette année artiste associé à la Comédie de Reims.
Pour 3 ans, hein.
Pour 3 ans.
Tu sais, c'est 3 ans.
C'est 3 ans.
C'est 3 ans à partir de janvier 23.
Elsa Agnès, je suis comédienne sur Le Firmament, de Chloé Dabert. Et aussi, j'ai écrit et je joue le Caméléon, le spectacle qui jouera en mars à la Comédie, mis en scène par Annelise Anneburger.
Bien, merci de me recevoir dans les locaux de la Comédie. La nouvelle saison démarre. On va parler plus précisément de quelques spectacles, mais avant cela, est-ce qu'il est possible de nous parler un peu de cette nouvelle saison, du ton peut-être de cette nouvelle saison ?
Alors, tout d'abord, on a presque fait un mandat, c'est-à-dire 4 ans, mais en même temps, on n'a pas une saison entière en fait pour rencontrer notre public, parce que avec le à notre arrivée, où on avait une saison partagée avec l'ancien directeur. Après, on a eu le Covid, on a eu différentes... Et l'après-Covid, ben, voilà. Et donc là, on arrive, on l'espère, une saison entière pour rencontrer notre public. Et alors là, est-ce qu'il y a un thème de la saison? En tout cas, c'est des artistes et des spectacles... Donc il y a pas mal de reports parce que évidemment par rapport à ce qui s'est passé et donc des spectacles qu'on a déjà vus donc et d'autres et beaucoup aussi de créations parce que donc des spectacles qu'on n'a pas encore vus et qui ne sont pas encore créés parce que l'ADN d'un centre dramatique national et notamment celui de Reims c'est d'abord de faire de la création et très peu d'accueil. Voilà. Donc il y aura beaucoup de spectacles que, donc on peut parler mais sans les avoir vus malheureusement et d'autres qu'on a vus. Donc là pour l'instant on a ouvert la saison avec un spectacle qui s'appelle Delphine et Carole qui a joué la semaine dernière autour de Delphine Seyrig et de la découverte de la première caméra portative. Et un deuxième spectacle là, donc, qui commence ce soir, vendredi, Le Firmament de Chloé Dabert dans la grande salle avec 13 comédiennes sur le plateau et 3 acteurs. Donc là, pour le début de saison, en tout cas, est un début de saison féminine, on dit ? Un début de saison féminin. C'est le début qui importe, début. Voilà, c'est ça. Et ben voilà, on dira féminine, alors voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est un spectacle avec une grande distribution. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de pouvoir avoir autant de gens sur un plateau de théâtre. Il faut pouvoir financièrement le faire, donc on a eu la chance de pouvoir le faire. On a pu voir ce spectacle il y a juste avant le confinement. Je l'avais découvert à Londres, au Théâtre National, et du coup, on a eu très envie de le faire traduire et de le monter pour le partager au public rémois et au public parisien. Parce qu'on a déjà joué le spectacle, on l'a déjà créé au 104 à Paris pendant 3 semaines et là on vient d'arriver à Reims où on le joue pendant 15 jours et on repart le rejouer à Paris tout le mois de novembre.
On spécule parce qu'on en a une de théorie, nous.
Le juge dit que ça pouvait pas être un accident, pas vrai? À cause de la force employée, tu vois,
mais et si? Parce que t'as entendu parler de cette comète que monsieur Allais a prédit.
Oui.
Bon, alors tu sais que c'est rien qu'un putain de gros caillou, pas vrai?
Qui vole dans le ciel.
Qui vole dans le ciel, exactement. Et nous tous, on attend de le voir passer, mais... Et si...
Mais si c'était déjà passé? La nuit où Alex Wax est morte et qu'on l'avait ratée?
Alors quoi?
Alors, tu vois pas? Bon, alors elle va plutôt vite, hein. Et imagine, elle vole au-dessus d'Alice Wax, qui fait une petite promenade de minuit et...
Il y a un bout qui tombe.
Et il y a un bout qui tombe, un bout énorme.
Mais maintenant, ça tombe.
Des centaines de kilomètres que ça fonce vers la Terre en prenant de la vitesse...
Et de la force.
En prenant de la vitesse et de la force, de plus en plus rapide. Et quand ça tombe enfin, il y a quoi entre la comète et la Terre?
La petite Alice Wax.
La pauvre petite tête de la petite Alice Wax.
C'est une suggestion très frappante.
Merci.
Mais pas qu'un peu improbable, vous ne croyez pas?
Dire qu'une chose est improbable, ça fait pas qu'elle serait impossible.
C'est vrai. L'époux de Mary Middleton a la queue en forme de point d'interrogation et pourtant ils ont 5 enfants.
Quoi?
Rien, ma cocotte. Mange ton pain.
Je peux poser une question?
Oui, ma chérie.
Je trouve que c'est une proposition très intéressante, mais vous expliquez comment que Sally a été trouvée avec un marteau au milieu de la nuit?
Elle accrochait peut-être une image.
Et comment Alice a-t-elle fini dans 2 sacs?
C'est très facile de mettre une idée en pièces.
On essayait juste d'avoir une pensée charitable pour la malheureuse.
Vous êtes des gentilles filles et c'était un plan tout à fait bien pensé. Merci.
On n'a pas encore pitché le spectacle.
Tout à fait.
Quel est le sujet du Firmament et justement pourquoi 13 actrices en scène, quelle est l'histoire qu'il raconte et aussi pourquoi avoir eu envie justement de lui faire traverser la Manche.
L'histoire, d'une façon assez succincte, sans tout dévoiler, c'est avant tout l'histoire d'un procès. On apprend très vite au tout début de la pièce qu'une jeune adolescente a été assassinée. Et les deux meurtriers ont été très rapidement pris. Et donc l'homme, c'est un homme et une femme qui ont tué cette adolescente. Et on découvre au fil de la pièce pourquoi. Et l'homme est tout de suite pendu et la femme va subir le même sort, sauf qu'elle elle dit au jury, donc c'est une pièce qui se déroule au XVIIIe siècle, donc le jury est en Angleterre, donc le jury est essentiellement masculin, et elle dit à ce jury qu'elle est enceinte. Et donc les lois de l'époque interdisent de la pendre si elle est véritablement enceinte. Si elle est enceinte, elle doit être déportée. Si elle n'est pas enceinte, elle sera pendue comme l'homme avec qui elle a commis ce crime. Et donc, du coup, ce jury d'hommes décide de réunir un jury de mères de famille, donc des femmes qui ont déjà eu des enfants, pour expertiser, pour savoir si elle est véritablement ou pas enceinte, en fait. Et donc, ils estiment que des mères de famille qui ont déjà eu des enfants sont les seuls à même de pouvoir vérifier si elle est véritablement enceinte ou pas. Donc se réunissent 13 femmes, 13 jurys, donc dans une salle, dans un huis clos, et c'est l'essentiel de la pièce en fait. L'essentiel de la pièce se passe dans cette salle fermée à clé où elles ne peuvent ni sortir, ni boire, ni manger, et elles sont obligées de décider entre elles à l'unanimité,
de
se mettre d'accord pour savoir si l'accusé est enceinte ou pas.
Et elles n'ont pas choisi d'être ici, elles ont été arrachées à leurs activités ménagères, etc. Un peu comme ça à la volée, toi tu dis, celles qui n'ont pas couru assez vite, vous êtes retrouvées enfermées dans cette pièce, et on leur a dit, voilà, maintenant, vous allez devoir dire si cette femme est enceinte, alors qu'elles ont toutes beaucoup de choses à faire ailleurs, et elles se retrouvent là.
Alors, il n'est pas question de dévoiler trop le spectacle, mais... Quels sont les grands enjeux de ce qui nous est narré, en fait?
Moi, je trouve que ça parle quand même beaucoup de la justice, comment on rend justice. Et y a beaucoup le mot vérité, impartialité. Et en fait, c'est inaccessible. Et au fond, ce qui se déroule devant nous, je trouve, c'est qu'on a envie, qu'on voudrait défendre une victime qui ressemble à l'idée qu'on se fait d'une victime et que le coupable ressemble à l'idée qu'on se fait du coupable. Sauf que la coupable est un peu victime aussi. Et la victime est prise dans des enjeux qui sont très problématiques. Et du coup, c'est ces impasses-là que la pièce, je trouve, explore. Comment chacune est liée d'une manière intime à ces questions-là. Et voilà.
Il y a une résonance par rapport à l'actualité, ou en tout cas à notre siècle, puisqu'on a dit que la pièce se passait au XVIIIe. Elle est toujours actuelle en tout cas, les faits qui sont traités sont toujours actuels.
Je trouve que ce qui se passe là, ne serait-ce qu'en termes, par exemple, du féminisme ou de toutes ces questions de justice, de droit, sont sont toujours actives, toujours à questionner. C'est jamais simple de... Et puis là, on voit... Qu'est-ce qu'on voudrait demander à la justice? Est-ce que c'est vraiment un soulagement? Ou c'est juste de justement faire un tiers qui ne soulage pas vraiment, mais qui permet de réhabiliter un coupable ou de nommer une victime? Enfin, voilà, ces questions-là, elles sont toujours au cœur, je trouve, de l'actualité, où maintenant il y a des jurés populaires qui viennent nommer des coupables ou on dit que la justice est insuffisante. Donc je trouve que c'est très... un peu plus actuelle. Mais...
Il y a vraiment aussi cette question de donner la... Elle se retrouve là, ces 13 femmes qui viennent toutes de milieux très différents, qui n'ont pas toutes les mêmes ressources, on va dire, et elle se retrouve là à devoir dire si elle est coupable ou pas. Et donc il y a vraiment, je trouve, cette idée de avec quoi on fait justice, enfin comment est-ce qu'on peut établir un verdict, avec quelle arme on a, et, enfin voilà, parce que il est presque impossible de déterminer si elle est enceinte ou pas, enfin donc avec quel élément, qu'est-ce qu'elles ont pour elles pour juger en fait de ça, en fait, de... Et pourtant c'est à elle qu'on a donné autorité là pour décider de cette chose-là.
On leur donne du pouvoir, ouais. Et d'habitude c'est pas, les femmes n'ont pas ce pouvoir, et même maintenant on pourrait se poser la question, les femmes au pouvoir, est-ce qu'elles réagissent comme les hommes ou pas, elles se posent la question dans la pièce, on vous a donné du pouvoir, est-ce qu'on doit utiliser ce pouvoir comme eux le font, ou est-ce qu'on...
On doit créer quelque chose, une nouvelle manière.
Et même maintenant, souvent, on compare les femmes au pouvoir, que ce soit à la justice ou en politique, on les compare souvent à des hommes. Je pense à Margaret Thatcher, on a toujours dit que c'était la dame de fer, une dame qui était encore plus violente que les hommes. Et du coup, ça pose ces questions de pouvoir, de qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Et aussi, il y a une dimension très sociale, comme le disait Elsa, de sociale parce que bon, c'est pas que je dévoile rien quand je dis que la petite adolescente qui a été tuée était issue d'une famille très riche dans la ville, donc du coup ces femmes forcément il y a une connotation très sociale aussi dans ce spectacle. Et pourquoi on a fait venir ça de Londres, c'est vrai qu'il y a je rebondis sur en Amérique et à Londres et en Angleterre, il y a une tradition très forte dans le cinéma et le théâtre des pièces de procès. Il y en a beaucoup, et notamment une très encore plus célèbre que les autres que beaucoup de gens connaissent, c'est 12 hommes en colère que Sidney Lumet dont Sidney Lumet a fait un film. Et du coup, c'est vrai qu'on compare souvent ce spectacle à un 12 hommes en colère version féminine, parce que il y a des, comme dans le film de Lumet, évidemment il y a un suspense qui très très fort pour savoir ce qu'on va faire de cette accusée. Et il y a chaque femme dans ce jury a un positionnement différent. Il y en a qui veulent sauver la fille pour des raisons très différentes. Il y en a qui veulent tout de suite la voir pendue. Voilà, c'est un espèce de petite ville. Enfin, chaque femme représente des citoyens différents. Donc voilà, c'est... et du coup, c'est vrai que ce qui, moi, m'a beaucoup plu aussi quand je l'ai vu à Londres, c'est que de voir autant de femmes sur un plateau théâtre, c'était, au-delà de ce que ça racontait, déjà ça a un sens, et ça a déjà du sens, et c'est déjà, comment dire, on a tellement l'habitude depuis tellement longtemps avec Shakespeare, avec Molière, de voir une femme pour 10 hommes, que d'un coup, de voir autant de femmes pour... Je disais tout à l'heure, il y a 3 acteurs, mais c'est trois rôles qui sont pas forcément très sympathiques d'ailleurs, mais c'est des rôles qui sont qui n'ont pas beaucoup d'importance, enfin qui sont là, je dirais pas de la figuration, mais l'importance, c'est vraiment d'avoir autant de femmes sur un plateau. Ça, je trouve ça, rien que ça, ça a déjà beaucoup de... Voilà.
Avancez, Madame Elisabeth Luc. Posez votre main droite sur le livre et observez votre serment. Vous jurez d'examiner, rechercher et juger avec diligence si Sally Poppy, prisonnière à la barre, porte ou non un enfant vivant. Et de cela rendrez avis, suivant votre conscience et votre intime conviction. Que Dieu vous aide. Embrassez le livre. Posez votre main droite sur le livre. Le même serment qu'a prêté pour sa part votre chef de jury, vous le respecterez et le garderez bien, et véritablement, pour votre part, vous aussi. Que Dieu vous aide. Embrassez le livre. Embrassez le livre, Madame Luc. Madame Luc.
Pardonnez-moi, j'ai peur.
Monsieur Combs, l'huissier sera présent et la prisonnière sera ligotée. Elle ne peut pas vous faire de mal.
Je n'ai pas peur de la prisonnière. J'ai peur que si la fille est dans les premiers mois, ce soit impossible d'en être certaine. Cependant, vous nous demandez de rendre un jugement qui pourrait la faire pendre. Combien de temps avons-nous ?
Aussi longtemps que nécessaire. Une heure devrait suffire.
Une heure ?
Si l'enfant remue, ça devrait être aisément perceptible pour vous.
Comment ?
Par des méthodes.
Il n'existe pas de méthode.
Je fais référence à...
Non, il n'y aura pas de verdict net ici. Nous serons 12 femmes qui avancent sur un tas d'opinions comme si c'était des faits. Vous nous laissez une heure pour prendre une décision avec laquelle nous devrons vivre une éternité.
Les autres femmes attendent, Madame Luc. Monsieur Combs, vous allez bien et véritablement garder ce jury de mère de famille sans nourriture, boisson, feu, ni chandelle. Vous n'admettrez que personne, sauf la prisonnière, leur adresse la parole. Ni même vous, excepté pour leur demander si elles sont arrivées à un avis. Que Dieu vous aide. Embrassez le livre.
Est-ce qu'il est possible de nous présenter un peu les personnages que vous interprétez ?
Oui, 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 ils sont trop...
Sont trop divulgués.
Ah oui, faut que je fasse attention quand même. Mais en tout cas... pardon.
On fait bip.
Le personnage que je joue s'appelle Elisabeth Luc. Et elle est sage-femme. Et donc, on lui a demandé de venir. On est allé la chercher. C'est la seule qu'on n'a pas attrapée à la sortie du... On est venu la chercher parce qu'elle est sage-femme. Mmh. Sauf que, bon, bah, sage-femme, sans échographie, ça reste assez pauvre comme outil pour déterminer une grossesse dans les premiers mois. On l'apprend très vite, donc ça je peux le dire. L'huissier qui est enfermé avec ses 12 femmes plus l'accusée, donc ses 13 femmes, on apprend très vite qu'elle a qu'ils se connaissent un petit peu mieux que...
Ah, une relation, on peut dire qu'ils
ont une relation avec l'huissier. Et à part ça, faut que je m'arrête là parce que sinon...
On peut dire quand même que c'est un personnage qui est plutôt en faveur de
l'accusé.
De l'accusé.
Ah si, ça on peut le dire, oui. C'est parce que la jeune fille qui a été assassinée donc vient de cette famille de notables qui sont les Wax et qui opprime quand même... Les très pauvres et qui violentent quand même qui ont une très mauvaise réputation, donc elle a une très mauvaise expérience avec cette famille de notables qui persécute un petit peu ces pauvres de la communauté. Voilà.
Et on peut dire aussi que c'est le Henri Fonda des 12 hommes en colère. C'était, donc elle essaye de convaincre les autres jurys de ne même si elle est coupable, parce que sa personne
ne peut le nier,
personne oui. ne le nie, oui, mais oui. Elle est coupable, mais elle essaye de d'amener les autres à ne pas la faire pendre parce que elle estime que c'est pas totalement de sa faute.
Oui, il y a toutes les toutes les circonstances atténuantes. Qui font que c'est pas un coupable non plus, c'est pas que l'horreur qu'on décrit. C'est pas le diable.
Alors moi, mon personnage, elle s'appelle Mary Middleton. C'est une fille qui vient d'un milieu très populaire, comme ça, qui elle n'a pas du tout choisi d'être ici parce qu'elle avait vraiment quelque chose de très important à faire avec son champ de poireaux. Elle est très occupée, c'est quelqu'un qui est très affairé dans les champs. Et donc elle a quand même, elle a cette naïveté, cette chose de... des pensées comme ça, quelque chose de primaire comme ça qui lui arrive, qui jaillit comme ça, et où elle va dire un peu des choses très simples, très élémentaires, qui vont lui sembler très importantes. Et, Donc voilà, elle est un peu vue comme un peu dans le village, au sein de cette communauté, donc elle fait partie des plus pauvres, et puis aussi elle est un peu vue comme un peu une ingénue, un petit peu naïve comme ça, mais je l'aime beaucoup parce que dans ce côté brut, elle va dire des fois des choses qui sont très troublantes de bon sens, un petit peu. Enfin, elle me fait un peu penser au personnage du fou dans les pièces de Shakespeare, qui est là comme ça, qui fait un peu le guignol, le clown, et puis qui des fois va, en fait, comme si elle avait un peu une longueur d'avance, mais qu'elle restait un peu dans le rôle aussi pour pouvoir dire un peu ce qu'elle veut quand elle veut.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est une pièce assez drôle, en fait. On parle d'un procès, mais notamment ces 12 femmes qui se réunissent pour plus l'accusé, qui se réunissent dans une pièce. Du coup, ça donne lieu à des scènes cocasses, quand même, et dont cette Mary Middleton que joue Elsa est une caution comique de cette pièce. Et voilà, c'est assez drôle. Et c'est, voilà. Et c'est aussi pour ça que je trouvais... enfin que on a décidé de l'amener en France parce que c'était assez drôle aussi. En fait. Et donc moi, je joue le rôle du juge, donc c'est tout début de la pièce. Et c'est la scène où justement le juge, d'une façon très paternaliste, parle à ces femmes. Et donc c'est la scène où on les voit pour la première fois, une présentation de toutes ces femmes et de prendre le temps de qu'elles se présentent une à une et en face d'hommes qui ne leur laissent pas beaucoup l'opportunité de le faire, en fait. Voilà. Donc j'ai pas un rôle très sympa.
Vous écoutez Radio Primitive, émission spéciale, la comédie de Reims, saison 2022-2023.
Découvrir d'autres lectures, peut-être quelques mots sur le spectacle en lien avec donc ces lectures qui vont nous être proposées.
Lucas Mignon ?
Oui, ah bah oui, voilà. Si j'ai bien suivi, il faut que je me tourne par là. Exactement. Au niveau de l'écriture.
C'est ça. Donc Lucas Mignon, c'est un texte que j'ai écrit et que je vais jouer donc en mars. Je l'ai déjà dit, ça je crois, à la comédie.
Donc, moi, je voulais juste, j'interviens, mais je voudrais juste dire que c'est un spectacle. C'était avant tout d'abord une carte blanche. Alors, qu'est-ce que c'est une carte blanche à la comédie ? C'est une soirée que l'on offre à un collaborateur assez proche de nous. Donc, ça peut être des acteurs, pas des metteurs en scène, mais des acteurs ou des écrivains, et qui on leur donne justement. C'est souvent le lundi soir. Une carte blanche, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer ce dont ils ont envie. Et donc c'est en entrée libre, et cette année on va recommencer encore ces opérations. Donc c'est gratuit, tout le monde peut venir. Et donc du coup, il y a 2 ans maintenant, c'était ça, il y a 2 ans, on a proposé à Elsa de venir faire une carte blanche. Donc elle a écrit un texte qu'elle nous a montré, déjà c'était assez évolué. Et du coup, on était tous tellement enthousiastes dans cette maison, dans tous les étages, en fait, qu'on a tous décidé, en fait, on a d'un commun accord, on a dit, mais il faut que ça aille plus loin, il faut qu'on en voit plus. Donc on a proposé à Elsa de produire ce spectacle et d'en faire un vrai spectacle. Et donc cette année, elle le crée à la Comédie et elle va le jouer aussi au Théâtre du Rond-Point à Paris. Alors je ne sais pas dans l'ordre si ça joue d'abord. On crée ici à Reims et après ça va jouer pendant un mois au Théâtre du Rond-Point, voilà, à Paris. Et je laisse Elsa nous parler du Caméléon.
Oui, c'est un texte que j'ai écrit sur 2 ans. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, etc. Et, donc c'est un texte qui parle en fait de la pulsion, dans ce qu'elle a de terrassant et en même temps de réjouissant, comme une vague quoi, qui à la fois terrasse et en même temps donne beaucoup d'énergie. Et c'est une suite de portraits comme ça s'appelle Le Caméléon. C'est une suite de portraits de femmes qui vont toutes à chaque fois avoir la nécessité importante de s'extraire du milieu d'où elles viennent. Donc, comme s'il fallait fuir les origines et essayer d'effacer la trace, ou en tout cas de faire quelque chose de cette trace qui leur colle à la peau et qui les met en mouvement sans arrêt. Et donc, pour ça, elles vont décliner des identités multiples et elles vont se mettre en mouvement comme ça, toujours à la quête de quelque chose, avec un... Et elles vont aller, voilà, ça va toujours être un peu en périphérie de ce qu'on pourrait attendre d'elles et en même temps dans des excès des fois assez énormes. Elles vont être prêtes au pire, quitte à tuer, vraiment. À la fin des portraits, ça se finit souvent par quelque chose comme ça. Mais en même temps, il y a c'est pas noir non plus pour autant. Donc voilà, c'est une suite de portraits comme ça, de figures qui évoluent sans cesse et qui changent de... Ça vient toujours de milieux assez populaires, dans des zones d'autoroute, dans des zones industrielles, dans des caravanes, dans des no man's land comme ça. Et il y a la nécessité d'aller ailleurs, mais c'est pas forcément mieux ailleurs. Mais en tout cas, il y a c'est en fait la pulsion à l'œuvre, ce texte. Et donc, voilà.
Lors de la carte blanche, vous étiez seule en scène ?
Oui, je suis seule en scène.
Et pour le spectacle également ?
Voilà, je serai encore seule en scène. Là, c'est Annie Zeinburger qui fait la mise en scène. Et on a demandé à Sylvia Costa, qui est une artiste italienne, qui fait les scénographies de ses propres mises en scène. Et là, pour la première fois, elle a accepté de faire la scénographie d'un spectacle qui n'est pas le sien. Donc c'est Sylvia Costa, qui est une grande artiste italienne, qui fait la scénographie du spectacle. Et Eve Risser, qui est une pianiste qui fait du piano préparé. Donc c'est une manière tout à fait dingue de faire du piano, parce qu'elle peut faire des sons très classiques et en même temps des sons très... Elle ouvre le piano et elle travaille à l'intérieur du piano pour créer des sons qui créent la bande sonore, avec un compositeur qui s'appelle Adrian Bourget qui travaille avec elle. Donc on a élargi l'équipe, et Guillaume Alloré qui fait les lumières, qui était déjà là à la carte blanche et qui continue à faire les lumières. Donc l'équipe s'est agrandie, mais je suis toujours seule sur scène. C'est une bande sonore, le son. Et pas avec moi au plateau.
Et donc, première présentation à la Comédie ?
Le 14 mars.
Pour qu'on comprenne mieux, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas bien la Comédie, ça veut dire que le travail de répétition se fait ici, avec l'aide d'une équipe. Comment c'est au quotidien, en fait, en tant qu'artiste, metteur en scène ?
D'un point de vue très général, un spectacle se répète pendant 2 mois. Non-stop, tous les jours, voilà, pendant 2 mois, et à l'issue de ces 2 mois, ça peut être plus, que ça peut être, c'est rarement moins, et donc à l'issue de ces 2 mois, il y a une représentation dans un lieu. Alors, ça peut être des spectacles, quand c'est une création, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est généralement dans le lieu où ça va se créer, mais ça peut être... Ça peut être dans différents endroits, donc voilà. Mais c'est essentiellement de moi. Alors je vais te laisser parler de ton spectacle.
Là, c'est 3 semaines. On a 3 semaines ici à Reims, dans la salle dans laquelle on va jouer. Donc c'est des conditions vraiment super pour nous. On a, voilà, c'est 3 semaines intenses avant mars. Je suis éveillée quand tout le monde dort. Je regarde le noir qui recouvre tout pour le dompter. J'observe les maisons identiques du lotissement désert. Tout est mort. Je ne veux pas fermer les yeux. Les taches jaunes me sauvent, puis elles s'éteignent. Je mets en place un rituel. À la tombée du jour, mon père se glisse dans mon lit. Je lui demande comment est arrivé sur terre le premier arbre. Il ne trouve aucune réponse. Ma haine du sommeil grandit. Dans ma chambre à la frise aux têtes de chien, j'allume ma veilleuse. C'est une veilleuse Picsou, elle diffuse une lumière rouge.
Un instant, elle me calme. Mon cerveau devient un écran de film porno amoureux. J'invente un film avec toutes les scènes d'amour de James Bond à la suite. Ça se passe dans des lits, dans des vaisseaux sous la mer, dans des cabines de Falcon 7X ou de Boeing 747, à l'arrière de limousines ou dans des trains couchettes. Je suis la dernière des femmes de James Bond, celle avec qui il fait l'amour dans une bulle de velours au cœur d'un aquarium envahi de requins blancs. Je pense au copain de mon frère, j'imagine qu'il est caché dans mon armoire. Je ferme les yeux et je vais lui ouvrir. Je commence à vivre. Ma mère décide de m'emmener voir un homéopathe. Dans la salle d'attente rose pâle, je regarde le gros titre du magazine Marie-Claire sur la petite table en osier. Les 5 conseils pour avoir une vie de famille épanouie. 1. Se coucher tôt. 2. Avoir une routine bien rodée. Tout ce que je veux, c'est détruire. Je commencerai par moi. Je dresse mes plans de vie en secret. D'être seule sur scène, c'est tout à fait autre. C'est la première fois, moi, que je fais ça, et c'est vraiment très, très déroutant. Je sais que toi aussi, tu l'as fait, le seul sur scène. On se demande... Voilà, donc la bande-son sera Anne-Lise qui met en scène, donc elle c'est vraiment elle qui orchestre tout ça et qui met en scène ça, c'est le pilier, enfin, c'est elle qui regarde, c'est important d'être regardée pour arriver à avancer, mais mon partenaire est aussi la bande-son sur scène, voilà, c'est vraiment partenaire, mais sinon c'est un drôle de truc d'être seule sur scène et de dire « mais à qui je parle ?» Voilà, c'est comme un truc avec soi qui doit toujours avancer. Continue dans la pensée, mais c'est très solitaire et c'est très déroutant de passer de ce firmament à 13-16 acteurs à ce seul en scène. Je suis née à Charleville. Mes parents sont propriétaires d'une ferme. Je traie les pieds des vaches. Je suis folle. Je me laisse baiser par les chiens galeux. Accroupie dans l'étable, je laisse les chiens engloutir mon corps. À la fin, je leur distribue du lait à la cuillère. Je me lève à l'aube, je vais dans les orties pour qu'elles me brûlent les mollets. Je capture des coccinelles, je les enterre sous la terre, je reviens les chercher, elles sont encore en vie. Notre maison en pierre est collée à la ferme. Elle est petite, humide, le canapé du salon est recouvert de napperon blanc et le vaisselier alsacien se tient à l'entrée. Dès que je cherche quelque chose, ma mère me crie « C'est dans le vaisselier alsacien !» Il est imposant et gros, il porte un air de fonction et se dissimule, je ne l'aime pas. Notre cuisine est équipée de placards en bois massif, elle est recouverte de carrelage beige avec des dessins de poules. Dans la chambre, j'entends le bruit des veaux qui pleurent. Dans notre jardin bétonné, on héberge une publicité pour un magasin de décoration. Le slogan dit « Vie de famille, toute la vie est ici ». Entre chien et loup, mon père me laisse conduire son tracteur sur le chemin abîmé. J'aime les bosses dans la terre qui font vibrer mon corps. C'est le meilleur moment de la journée. À 17 ans, je quitte Charleville pour Metz. Mes parents sont contents de m'éloigner des vaches. Je leur fais peur. Dans une chambre mauve, je n'ai pas d'amis. Je ne parle à personne. Personne ne me parle. J'achète un téléphone Bic. Dans mon répertoire, j'enregistre Gilles, un ami de mon père qui m'a touché 2 fois dans l'étable, Huguette, la voisine à la ferme, et Charles. Un garçon de mon âge qui ne quittera jamais Charleville. Je ne sais pas qui appeler.
Je vais en profiter pour juste dire qu'il y a à l'automne, il y a 3 spectacles de compagnies émergentes, ça veut dire que c'est des jeunes compagnies qui sont structurées récemment, des jeunes metteurs en scène avec des jeunes acteurs qu'on a découvert dans différents festivals dédiés à cette émergence. Et donc il y a 3 spectacles qu'on accueille parce qu'ils ont déjà été créés, dont un qui est déjà pratiquement complet, de Jewish Hour, de Yuvan Roswal, j'espère que je le prononce bien. Il y a aussi, juste après, les Femmes de Barbe Bleue, Gelisa Gedge, et un spectacle que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Band, de Camille Dagen sur qui a un spectacle assez punk, justement. Il parle beaucoup des Sex Pistols et c'est assez. C'est un spectacle que moi j'aime beaucoup. Voilà, ces trois spectacles, j'ai un petit focus sur eux. Voilà.
Cette émission est terminée. Je vous rappelle que le Firmament sera encore joué ce mardi 18 octobre à 19h30, le mercredi 19 octobre à 19h30 et le jeudi 20 octobre à 19h30. Quant au Caméléon, il vous faudra un peu de patience puisque les représentations sont prévues du 14 mars au 21 mars prochain. Vous retrouverez toute la programmation et l'ensemble des informations sur le site de la Comédie de Reims, lacomediedereims.fr.